Chapitre 10 La chasse à l'homme. Le roi des détectives, qui contenait avec peine la colère intérieure dont il vibrait, s'écriait les sourcils froncés. « Ce serait à croire que ce bandit est beaucoup moins fou que je ne le supposais. » Il se tut car ce n'était pas le moment de parler ni de raisonner, mais d'agir. Faisant signe à ses deux compagnons de garder le silence, il pénétra dans le cabinet et commença à en sonder les murailles avec la crosse de son revolver. Puis, revenant vers M. Lérémy et Météore, il leur dit « Bon, il est certain que ce réduit possède une issue secrète qui doit donner dans un appartement voisin que Courtil a dû louer sous un nom d'emprunt, à moins qu'il ne s'y soit assuré des accointances. C'est pas le moment de rechercher par où et comment le tueur de femmes a pu s'enfuir, mais de nous efforcer de retrouver sa piste. Je vais réveiller la vieille scolastique qui couche dans l'appartement et m'efforcer d'obtenir d'elle quelques renseignements. Mais Théor, reste ici. Mon cher Lérémy, veuillez m'accompagner. » La chambre de la servante était située à l'autre bout de l'appartement. Chantecoq et son ami n'eurent pas beaucoup de peine à la trouver. En effet, en pénétrant dans le salon d'attente que nous connaissons, ils entendirent des ronflements sonores et prolongés qui les guidèrent immédiatement vers la chambre de scolastique. Ils constatèrent que celle-ci ne s'était pas enfermée et pénétrèrent sans la moindre difficulté dans la pièce. La brave femme dormait, comme toujours, d'un sommeil de plomb. À plusieurs reprises, Chantecoq toussa. Lérémy l'imita, mais elle ne broncha pas. Alors ils se mirent à remuer les meubles, firent même tomber une chaise. Ces bruits successifs ne produisirent aucun résultat. Chantecoq se décida à prendre la dormeuse par le bras et à la secouer doucement d'abord, puis avec une énergie croissante. La pauvre scolastique fit enfin entendre un grognement de vagues protestations. Puis elle tenta de se retourner du côté de la muraille, mais elle n'y parvint pas. Le roi des détectives la maîtrisait de sa poigne de fer. La servante eut un cri de douleur. « Oh, c'est vous, monsieur le professeur. Oh, lâchez-moi, vous me faites mal. » Chantecoq desserra un peu son étreinte. Puis il entendit Scolastique murmurer. « Oh, le voilà encore qui a sa crise. Oh, quand il est comme ça, j'ai toujours peur qu'il fasse du mal. » « Rassurez-vous, madame, répondit le roi des détectives à très haute voix, il ne vous fera fait aucun mal. »«
Comment ? » sursauta l'excellente femme. « Vous n'êtes pas monsieur ?»«
N'ayez aucune crainte, » s'empressa de déclarer le grand limier. « Je suis un ami qui vient vous sauver d'un grand péril et vous empêcher d'être compromise dans une affaire dont les conséquences pourraient être plus que fâcheuses pour vous. »
« C'est pas possible, je rêve !»
murmurait Scolastique. Chantecoq, qui avait découvert le commutateur placé à la tête du lit, alluma l'électricité. À la vue de ces deux hommes, à l'air grave et bienveillant, qui se tenaient à son chevet, la pauvre vieille tressaillit. En proie à une frayeur immense, et joignant les mains, elle dit avec épouvante
« Bien vrai, vous voulez pas nous assassiner ?»
« Non, ce n'est pas précisément notre rôle, » martelait le roi des détectives, et il ajouta « Allons, madame, remettez-vous d'une émotion que nous vous excusons d'avoir provoquée. Encore un coup, n'ayez pas peur. » Dominée par son interlocuteur, la servante dirigea sur lui un regard encore angoissé. Puis elle balbutia
« Ah, je vous reconnais, vous êtes venu voir monsieur le professeur. » Vous êtes sorti avec lui, vous êtes monsieur. Ah, comment donc déjà vous appelez ?
Chantecoq.
Ah, c'est cela, oui.
Et voici mon ami, monsieur Lérémy, le directeur de la police judiciaire.
La police ?
S'effarait la bonne vieille.
Mais je n'ai commis aucun méfait. Jamais je n'ai fait tort à personne. J'ai un fils qui est prêtre et même vicaire à la cathédrale de Vannes. Vous pouvez prendre des renseignements sur moi.
interrompant le cours de ses protestations, dont l'accent de sincérité parfaite eût suffi à dissiper tout soupçon, le grand Limier reprenait. « Ne vous demandez pas ainsi, madame. Vous êtes nullement en cause. Et vous ne serez jamais inquiété si vous ne nous faites pas briller pour nous dire à monsieur Lérémy et moi toute la vérité, rien que la vérité. » Et pleurer, Scolastique s'écriait. « Il est arrivé malheur à mon maître ?»« Non, non, » affirmait nettement Chantecoq. « Oh, si, si !» s'obstinait la maman du vicaire. « Vous voulez pas me le dire, mais j'en suis sûr. C'est bien de sa faute. Oh, si je lui avais bien prédit. À force de manier des drogues dangereuses, il aura fini par s'empoisonner. » Heureux de constater que la servante répondait d'avance aux questions qu'il avait l'intention de lui poser, Chantecoq reprenait. « Mais qu'est-ce donc que ces drogues dangereuses dont vous parlez ?»« Bien, je n'en sais rien, mais tout ce que je puis vous dire, c'est qu'un jour, nous étions encore à Rospondan, il m'a montré un petit tube de verre qui contenait du liquide blanc comme de l'eau, et il m'a dit « Avec ça, j'ai de quoi tuer 100 personnes. » « Ah non, je me suis sauvé tant j'ai eu peur. » Chantecoq reprenait. « Ne vous n'avez pas pensé à lui demander à quel usage il destinait le poison foudroyant ?»« Ma foi, non, » répondait bonassement Scolastique. « C'est ainsi d'ignoble que j'ai pas songé un seul instant qu'il pouvait servir de cela contre le monde. » Et prête à pleurer, elle ajoute. « Alors il s'est empoisonné. » « Non, madame, non, je vous l'affirme. J'en donne même ma parole d'honneur. »« Et moi aussi, » appuya le directeur de la police judiciaire.
« Alors, » interrogeait la servante, « que faites-vous ici, tous les deux, au milieu de la nuit ?»«
Nous vous le dirons tout à l'heure, » répliquait Chatterclock. « Mais auparavant, je voudrais que vous répondiez franchement à la question que je vais vous poser. »«
Dites, monsieur, vous pouvez être tranquille. » C'est pas moi qui chercherai à vous tromper, d'abord parce que la mère d'un prêtre ne peut pas mentir, puis parce que vous m'avez l'air tous deux de si honnêtes gens que maintenant j'ai plus peur de vous et j'ai même confiance.
Vous avez raison, madame, déclarait Chantecoq. Loin de vous causer le moindre mal, monsieur le directeur de la police judiciaire et moi, nous sommes tous disposés à vous défendre au cas, peu probable d'ailleurs, où vous seriez accusé.
« Accusez-moi de quoi, mon Dieu ?»
s'écriait Scolastique. « Madame, » reprenait Chantecoq, de sa voix si persuasive, « vous venez à l'instant de vous écrier en parlant de votre maître. Alors il s'est empoisonné. Vous semblez indiquer par là que vous redoutez qu'il ne se suicida ?»«
Je l'ai craint pendant longtemps. » répliquait la servante avec toute la netteté désirable. « Surtout après la mort de madame. Il ne voulait plus vivre, et mon défunt mari et moi, nous nous demandions s'il ne se consolerait jamais. »«
Cependant, il a oublié, » insinuait M. Lerény.
« Non, » répliquait Scolastique. « Il pense toujours à sa pauvre femme. Elle était si belle. Il l'aimait tellement. Alors, des fois, ça lui donne des crises. »
Quelle crise!
La nuit, il se réveille tout d'un coup, il s'habille et il se met à se promener dans l'appartement tout en poussant de grands soupirs. Une fois, je l'ai trouvé sur les 2 heures du matin dans son salon, assis sur un canapé, la tête entre les mains, sanglotant. Il m'a pas vu, il m'a pas entendu. J'ai pas voulu me montrer à lui parce que j'ai pensé que cela le gênerait peut-être de se dire que je l'avais surpris comme ça, lui qui est si fier. Il y a une autre nuit où je dormais pas, il entra dans ma chambre. Alors, toute surprise, je lui ai dit, « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Il m'a rien répondu, il avait les yeux fermés, il marchait comme un fantôme. Il est reparti comme il était venu, sans ouvrir les paupières, sans desserrer les dents, et pourtant sans se heurter à aucun meuble. Je l'ai suivi car j'avais peur qu'il ne lui arrive un malheur. Il est rentré dans son cabinet de travail et il s'est enfermé à double tour. C'est tout de même bizarre, messieurs, et pourtant cela s'est passé comme je vous le raconte. J'invente rien, je vous dis la vérité, comme vous me l'avez demandé, monsieur, rien que la vérité. Mais c'est pas tout. Avant-hier, j'étais en train de faire sa chambre. C'était le matin, il était dans son bureau, tout seul, en train encore de manier ses tubes. Et j'ai cru que l'on sonnait à la porte d'entrée, alors je m'en étais pas bien sûr. Je suis assez dur d'oreille, mais comme je voulais pas laisser les gens sur le palier, je suis tout de suite allé voir. Et pour me rendre dans l'antichambre, j'ai dû traverser le cabinet de travail de monsieur le professeur. Aussitôt qu'il m'a vu, il a refermé ses tubes dans un tiroir et il s'est mis à me crier. Vous pourriez bien frapper avant d'entrer. Oh, il avait l'air très en colère. J'avais même jamais vu comme ça, depuis bien 25 ans que je suis à son service. Alors je me suis excusé, de mon mieux, il m'a envoyé promener. Pour rien, je crois qu'il m'aurait bousculé, vu que je suis bon pour moi. Et quand j'ai voulu revenir pour terminer mon travail, il s'était enfermé à clé, et je l'ai pas revu jusqu'à l'heure du déjeuner. Alors il m'a dit d'un ton très radouci, il faut pas m'en vouloir si je vous ai un peu rudoyé ce matin. Quand je suis en train de travailler, je peux pas supporter que l'on me dérange, surtout sans me prévenir. Ce langage m'a un peu surprise, car il m'était arrivé bien des fois d'entrer dans le bureau de monsieur quand il était en train d'écrire ou qu'il se penchait sur ses bouquins, et jamais il m'avait adressé aucun reproche. J'ai rien dit, j'ai continué mon petit train-train comme d'habitude. Ben, je vous dis tout cela, messieurs, parce que je vous ai promis de ne rien vous cacher. Maintenant, voulez-vous être assez bon pour me rassurer tout à fait sur le sort de mon patron? Il a toujours été si bon envers moi, je lui étais si tellement attaché que s'il lui arrivait malheur, je crois que je ne m'en consolerais pas.
Vous êtes une trop brave femme, reprenait Chantecloque, pour que je vous fasse la moindre peine, mais vous êtes aussi une trop honnête personne pour que je ne commence pas à vous ouvrir les yeux sur votre maître. Il se peut qu'il eût été fort bon envers vous et même vis-à-vis d'autres personnes. Quant à son génie, oh, je ne le discuterai pas un instant. Cet homme eût été certainement un des plus illustres de France et même du monde entier.
« N'est-ce pas, monsieur ?»
s'extasiait Scolastique. « Malheureusement, reprenait Chantecoq, tous les ennuis et toutes les déceptions qu'il a éprouvées au cours de sa carrière avaient déjà ébranlé considérablement son système nerveux. La mort de sa femme et peut-être encore davantage les circonstances qui l'ont précédée ont achevé de rompre son équilibre mental. Une lésion cérébrale s'est produite en lui, et depuis longtemps déjà, le professeur Courtil, ma pauvre dame, a perdu, oh, sinon tout à fait la raison, mais tout au moins en grande partie. C'est ce qu'on appelle un demi-fou. Et ces demi-fous sont les plus dangereux de tous. La plupart du temps, on ne soupçonne pas leur état, et il est impossible de les empêcher de nuire. Je vous demande pardon de vous causer cette peine, mais je n'ai pas le droit de vous dissimuler davantage qu'il faut vous attendre ici à des événements graves, et même très graves. Si j'ai un conseil à vous donner, je crois que vous feriez mieux de vous en retourner en Bretagne, vivre auprès de votre petit-fils l'abbé. La pauvre scolastique, retenant à grand-peine ses larmes, s'écriait
« Je crois comprendre. On va enfermer ce pauvre monsieur dans une maison de fous ?»
Chantecoq reprenait « Ah oui, pour cela, faudrait-il savoir où il se trouve ?»«
Comment, il n'est pas ici ?»«
Non, » répliquait le roi des détectives. Tout à l'heure, il était dans son bureau. Je parlais avec lui lorsqu'il s'est levé, il s'est dirigé vers une porte qu'il a ouverte, puis il a disparu.
Il m'a été impossible de le retrouver. Comme Scolastique roulait des yeux affarés, Chantecoq lui demandait « Vous ne vous êtes jamais aperçu qu'il exista dans cet appartement d'autre porte d'entrée que celle qui donne sur le palier ?»«
Mon Dieu, non, monsieur. » »«
Vous en êtes absolument sûr ?»«
Oh oui, très sûr, tout à fait sûr. »
Et soudain, Scolastique s'écria
« Pourvu qu'il ne soit pas jeté par la fenêtre !»«
C'est impossible, affirmait le roi des détectives, puisque dans le réduit où il s'est rendu, il n'y avait aucune espèce d'ouverture autre que celle par où il est entré. »«
Ah oui, le cabinet noir !»
déclarait Scolastique.
« Ben alors, je comprends plus, je ne sais plus !»« Ah, mais bon, messieurs, j'en ai là ma fièvre. Maintenant, je ne vais plus oser rester seul dans cette maison !»
« Tranquillisez-vous, s'écria Chantecoq. Vous êtes sous notre sauvegarde, il ne vous arrivera rien de fâcheux. Vous allez vous habiller tranquillement. Le directeur de la police judiciaire va laisser ici un de ses agents, qui, lorsque nous serons partis, restera près de vous. De cette façon, vous n'aurez rien à craindre. Soyez tranquille, nous ne vous abandonnerons pas, bien au contraire. » S'adressant à Lérémy, le grand limier dit « Maintenant, mon cher, laissons cette bonne dame achever de reprendre tous ses esprits et retournons dans le cabinet du professeur. » Le roi des détectives et le policier officiel se hâtèrent de gagner le bureau d'où Météor n'avait pas bougé. « Rien de nouveau ?» lança Chantecoq.
« Rien, patron. »
Tu n'as entendu aucun bruit insolite ?»
Aucun.
Nous venons de voir Madame Scolastique. Elle ne nous a donné aucun renseignement capable de nous mettre sur la piste du tueur de femmes. En tout cas, ce qu'elle nous a dit n'a pas pu que nous confirmer que ce véritable monstre était un demi-fou, ainsi que nous l'avions déjà pensé. Maintenant, mon cher Lérémy, je vais vous demander un service.
« Je vous en prie, mon cher maître. » Météor a pu recueillir au vol le numéro de la voiture qui avait emmené le professeur Courtil. Grâce à ce numéro, à moins qu'il n'ait été maquillé. Cela est un jeu pour vous, mon cher ami, que de connaître le nom de son propriétaire. Météor passa à M. Lérémy le papier sur lequel il avait inscrit le numéro de la mystérieuse voiture. Lérémy s'empara de l'appareil téléphonique qui était placé sur le bureau du savant, et il demanda la communication avec son secrétaire de service. Lorsqu'il l'eut obtenu, il lança dans l'appareil « C'est vous, Clerbier, ici le directeur Lérémy. Voulez-vous tout de suite me rechercher le nom du propriétaire de l'auto 3127RB ? Aussitôt que vous l'aurez, envoyez-le-moi. Attendez que je cherche à quel numéro. » Chantecoq, qui était doué d'une mémoire formidable, précisa « Littré, 78-91. » M. Lérémy répéta le numéro et raccrocha l'appareil. « En attendant, déclarait le roi des détectives, je crois que nous pourrions nous livrer ici à une petite perquisition, grâce à laquelle nous pourrions peut-être obtenir davantage de résultats. »«
Mais j'allais vous le proposer, déclarait M. Lérémy.
« Toi, mon petit météore, reprenait le grand limier, je vais te demander de te rendre dans l'antichambre et de surveiller la porte. Car on ne saurait trop prendre de précautions, surtout au moment où se joue la partie décisive. » Météor obéit aussitôt et quitta la pièce. Chantecoq prit dans sa poche un trousseau auquel étaient suspendus des clés et des crochets de toutes dimensions et de toutes formes.
« Et voilà, dit en souriant M. Lérémy, un véritable attirail de cambrioleur. »
Chantecoq répliquait oui, « c'est en effet l'arsenal d'un bandit international au collet, duquel j'ai réussi, il y a quelques années, à mettre la main. C'est bon, je l'emploie d'une autre manière. Grâce à cette précieuse collection et à la condition de savoir s'en servir, je ne connais guère de serrure qui soit capable de me résister. »
Chantecoq s'approcha de la table de travail du professeur Courtil.
et choisissant dans son trousseau un petit instrument bizarre qui tenait à la fois de la clé ordinaire, de la pince Monseigneur et de la clé anglaise. Après l'avoir adapté au calibre de la serrure qu'il voulait faire fonctionner, il introduisit délicatement dans l'ouverture, et aussitôt, sans le moindre effort, sans la plus légère difficulté, il en tira le tiroir à lui. Il était rempli de petites boîtes en bois rectangulaire qui portaient toute une étiquette sur laquelle étaient inscrits des chiffres dont seul le professeur connaissait la signification. Shuttlecock s'empara de l'une de ces boîtes et l'ouvrit. L'intérieur renfermait, couché sur de l'ouate, une dizaine de tubes contenant un liquide incolore. « Oh, il n'y a pas à en douter un seul instant !» fit le roi le détective. « Ces ampoules contiennent le poison avec lequel le tueur de femmes trempe les aiguilles, avec lesquelles il pique ses victimes. Mon cher les réunis, vous n'avez qu'à saisir une de ces boîtes et à l'emporter à la préfecture de police, qui fera le nécessaire. Elle nous fournira ainsi la preuve absolue que le professeur Courtil est bien le mystérieux assassin que vous recherchez depuis plusieurs semaines. Et il ne nous restera plus qu'à l'arrêter, ponctuait Monsieur Lérémy. Oh, j'imagine que maintenant cela sera moins difficile que je ne le craignais tout d'abord. Et le roi des détectives ajouta, continuons nos recherches en attendant que l'on nous envoie le numéro de l'auto. Shuttlecock et Monsieur Lérémy poursuivirent leurs investigations et découvrirent plusieurs documents qu'ils durent trouver du plus grand intérêt, car ils se pressèrent de les placer dans une grande enveloppe jaune qu'ils trouvèrent sur le bureau du professeur et qu'ils allaient cacheter à la cire. Comme ils terminaient cette opération, une sonnerie de téléphone retentit. Lérémy saisit l'appareil. C'était son secrétaire de service qui lui envoyait le nom et l'adresse du propriétaire de l'auto repéré par Météor. Il s'appelait Will Streamer et demeurait 67 avenue de Breteuil. « Will Streamer ?» s'exclama Shuttlecock, auquel M. Lérémy venait de communiquer ses renseignements. « Ben, je connais ce nom-là. Oh, « Parfaitement, mais c'est celui d'un soi-disant détective américain fripouille notoire et que je m'étonne fort de voir encore en France après toutes les actions douteuses et même malpropres dont il s'est rendu coupable. » Le directeur de la police judiciaire reprenait, non sans une certaine mélancolie. « Vous savez, mon cher maître, combien il est difficile à un Français honnête de séjourner en Amérique. Vous m'apprenez rien, hélas, en me faisant constater combien il est difficile de mettre en dehors de la France un Américain malhonnête. Oh, vous avez raison, disait Shuttlecock, mais en tout cas celui-là ne tardera pas à avoir son compte. Et maintenant, le seul point obscur qui restait dans mon esprit s'éclaire d'une façon lumineuse. Je me demandais en effet comment le professeur Courtil pouvait si bien connaître le nom, la personnalité, et j'ajouterais la culpabilité de toutes les femmes adultères qu'il a expédiées dans l'autre monde. Je pressentais naturellement qu'il avait un complice. Et parbleu, le voici. C'est Will Streamer, ce bas détective américain, homme de toutes les sales besognes et aux besoins de toutes les infamies. Mais ce qui me trouble encore un peu, c'est que ce sacripant ne devait pas accorder ses services gratuitement aux tueurs de femmes. Oh, il est même certain qu'il devait les lui faire payer très cher. « Tant par tête !» soulignait Lérémy. Shuttlecock poursuivait. « D'après les déclarations que Scholastic a faites à Météor au cours d'une précédente enquête, déclarations qui m'ont été très finalement transmises, ainsi que le fait toujours mon secrétaire et dont je n'ai aucune espèce de raison de suspecter la sincérité. Le professeur Courtil aurait une fortune d'environ 100 000 francs de rente. Ainsi que vous le savez, mon cher ami, par le temps qui court, on ne va pas très loin avec une pareille capitale, à moins que ce Courtil, pour satisfaire son atroce manie, est résolu de sacrifier entièrement jusqu'à son dernier centime. C'est une question dont le juge d'instruction aura à s'occuper plus tard. Le principal est de mettre le grappin sur l'assassin et son complice. Je vous demande, mon cher Lérénie, de le laisser agir en conséquence. Je vous promets de vous livrer les deux coupables dans le plus bref délai. Je tiendrai ma parole. Et pour qu'il n'y ait ni malentendu ni surprise, ne répondez à mon appel que si c'est Cocorico qui vous demande. Et bien maintenant, nous n'avons plus rien à faire ici. Il est certain que le professeur Courtil n'est pas prêt de réintégrer son domaine. Cependant, je vais laisser Météor en faction. Je vous prierai de bien vouloir le faire remplacer dès que cela vous sera possible par un de vos meilleurs inspecteurs auquel vous donnerez toutes les instructions nécessaires. Très bien, mon cher maître. Bon, je m'en vais maintenant me lancer à la chasse à l'homme, ou plutôt aux deux hommes dont il s'agit avant tout de débarrasser la société. Et moi, reprenait le directeur de la police judiciaire, que vais-je faire dans tout cela ? Rentrez chez vous, vous couchez tranquillement, dormir comme un homme qui a la conscience entièrement tranquille et qui, je l'espère bien, sera réveillé, s'il prolonge son sommeil jusqu'à 7 heures du matin, par un cocorico sonore et triomphateur. Alors vous accourez pour que je remette entre vos mains l'un des plus intéressants gibiers qui m'ait été donné de donner au cours de ma longue carrière. Je vois, mon cher maître, s'exprimait M. Lérémy, que j'ai bien fait de m'adresser à vous. Oh, vous êtes et vous serez toujours notre maître à tous. Mon cher, reprenait le roi des détectives, vous n'aviez pas besoin de me faire ce compliment pour que je vous déclarasse combien j'aurais été enchanté de vous rendre service. Soyez persuadé que chaque fois que j'en rencontrerai l'occasion, je la saisirai avec l'embrassement le plus vif. Et maintenant, filons, car j'ai pas mal de choses à débrouiller avant le jour. Il est déjà 1 heure du matin. Tous deux regagnèrent l'antichambre. Chantecoq prévint son secrétaire que Scolastique, habillée comme si elle était prête à sortir, allait rejoindre cette antichambre. « Tu vas veiller sur cette brave femme, » ajouta-t-il, « et sur le reste, en attendant que M. le directeur de la police judiciaire le fasse relever de sa faction. Alors tu rentreras directement avenue de Vergy, tu ne te coucheras pas, et tu attendras dans mon bureau un coup de téléphone de moi, qui te dira ce que tu as à faire. « Bien, patron, » asquessa Météor. Chantecoq et Lérénie regagnèrent la rue. Le grand limier se dirigea vers sa Talbot, qui était restée à quelques mètres de là, près du trottoir. Chantecoq proposa à son ami « Voulez-vous que je vous reconduise jusqu'à chez vous ?» Monsieur Lérémy refusa. « Non, non, c'est inutile, » dit-il. « J'habite tout à côté d'ici, rue de Rennes. » Je ne veux pas vous prendre une seule parcelle de votre temps si précieux. » Chantecoq ouvrit la portière de sa voiture qu'il avait fermée à clé, s'installa au volant et partit à belle allure. Il gagna les quais. Lorsqu'il se trouva devant la gare d'Orsay, il stoppa à l'endroit où stationnent les taxis pendant la journée et fermant ses stores, il enjamba la banquette sur laquelle il était assis, souleva les coussins de l'arrière de la voiture, qui contenait un coffre à secret qui s'ouvrit aussitôt et dans lequel il plongea la main. Quelques instants après, Chantecoq reprenait le volant sous un aspect différent du précédent. Ce n'était plus Chantecoq en chair et en os, mais un homme à l'aspect respectable de notaire de province qui semblait tout égaré de se trouver dans la capitale. Il ne portait pas de favoris, comme de nombreux basochiens du siècle précédent, mais une barbe assez abondamment fournie, ou plutôt mal taillée. La moustache, tout particulièrement, semblait avoir poussé dans tous les sens. En tout cas, une chose que l'on pouvait affirmer, c'est qu'il était absolument méconnaissable. Il conduisit sa voiture dans un garage voisin de la gare d'Orsay, et il pria qu'on la lui gardât jusqu'au lendemain. De là, il s'enfuit à l'hôtel de la gare d'Orsay, demanda une chambre avec salle de bain et téléphone communiquant avec la ville. Tout en parlant au surveillant de nuit, il avait, sans en avoir l'air, manipulé un portefeuille bourré de billets de banque. Ainsi fut-il tout de suite donné droit à sa demande. On lui demanda s'il n'avait pas de bagages. Il répondit « Bon, je vais laisser par mégarde ma valise dans le train, mais j'ai fait le nécessaire et j'espère que demain matin je l'aurai récupéré. » Il n'insista pas et se vit immédiatement conduire par un garçon, maître Josset, notaire à Saint-Jean-de-la-Poterie, près Redon, Ille-et-Vilaine, dans la chambre qui lui avait été réservée. Là, après avoir refermé la porte à clé et s'être rendu compte rapidement de la disposition des lieux, il consulta un annuaire du téléphone déposé sur une table, saisit l'appareil et demanda le numéro Ségur 5247, qui était celui du policier Wilstriner. Chantecoq ne tarda pas à entendre à l'autre bout du fil une voix qui lançait avec un fort accent américain « Allô, qui est là ? Allô, qui me demande ?» Chantecoq répliquait « Maître Josset, notaire en Bretagne, vous êtes bien monsieur Wilstriner ?»«
Oui, oui, c'est moi, que direz-vous ?»
Ben, je viens d'être victime d'un vol important. Est-ce que vous ne pourriez pas venir me retrouver, car je pourrais dès à présent vous donner les indications nécessaires qui vous permettraient de découvrir immédiatement le ou plutôt la coupable. Bien qu'il soit très tard, je vous serai tout particulièrement reconnaissant de vous déranger. Donc, je commence par vous dire que je suis prêt à vous verser en provision un chèque de 10 000 francs. Vous voyez que l'affaire en vaut la peine.
Où vous trouvez-vous en ce moment ?
Interrogeait l'Américain. Chantecoq répliquait.
À l'hôtel de la gare d'Orsay, où je viens d'être dépouillé de la façon la plus extraordinaire. Vous n'aurez qu'à demander, maître Josset, notaire. D'ailleurs, le numéro de ma chambre est 121.
Le détective américain, ou plutôt le bas policier, le mouchard à gages qu'il était, répliquait
« Je serai près de vous dans une demi-heure. »
En effet, Wilstriner, ne se doutant pas un seul instant du piège que lui tendait le plus grand limier du monde, se sentait attiré par l'appât puissant qu'était pour lui l'aventure sans doute fort compromettante à laquelle était mêlé un honorable tabellion de province qui, pour étouffer un scandale, devait déjà être prêt à tous les sacrifices. Aussi, une demi-heure après, se présentait-il à l'hôtel de la gare d'Orsay, où Chantecoq se préparait à lui tendre un piège dans lequel Will s'était précipité tête baissée, car il n'était pas d'une bien grande finesse et seul son manque de scrupules absolus, ses procédés dénués de la plus élémentaire probité, lui avaient valu quelques succès dans une clientèle qui ne passait pas précisément pour être exigeante quant au choix de ceux qu'elle prenait à son service. L'Américain s'en fut à la caisse demander au gérant de nuit, M. Josset. Le gérant s'empara d'un téléphone privé et demanda au faux notaire s'il consentait à recevoir M. Wilstriner. La réponse fut naturellement affirmative et guidé par un garçon, le détective américain prit l'ascenseur. Quelques instants après, il frappait à la porte de la chambre occupée par notre Chantecoq national. Celui-ci, assez que nous l'avons déjà vu et que nous allons voir encore, était passé maître dans l'art de composer les personnages dont il se distribuait les rôles. Admirablement camouflé à un tel point que même tout près de lui, il était impossible de s'apercevoir qu'il était affublé d'une fausse barbe et d'une fausse perruque, il s'avança, les mains tendues, vers le détective américain, qui, tout en le toisant dédaigneusement, se disait « Voilà un qui ne va pas peser lourd entre mes mains. » Monsieur le détective, attaqua le prétendu maître Josset, « Combien je vous suis reconnaissant d'être accouru à mon appel, car vous allez me sauver mieux que la vie, c'est-à-dire l'honneur.
Mais je ne m'engage à rien. »
répliquait en nasillant le détective d'outre-Atlantique. et prenant un air important, il fit « Tout d'abord, avant d'entamer le moindre pourparler, je serais désireux de savoir pour quelle raison vous vous êtes adressé à moi, de préférence à tout autre. » Sans la moindre hésitation, Chantecoq répliquait « Bien, à la suite de la mésaventure qui vient de m'arriver et que je vous raconterai tout à l'heure, je me suis fait vite monter à Botin et je cherchais l'adresse du détective privé qui demeurait le moins loin d'ici. Et il s'est trouvé que c'était vous. Et voilà pourquoi je vous ai appelé, de préférence à tout autre. Car si vous allez le voir, les choses ont besoin d'être menées très rondement. » Voici donc. Chantecoq allait entamer le récit qu'il avait déjà imaginé de toutes pièces. Mais d'un geste brusque, brutal même, qui prouvait combien, sous ses apparences de gentleman correct et bien racé, il était dénué de toute espèce d'éducation, Will Streamer l'interrompit en disant « Une autre question. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé plutôt à la police officielle de votre pays ?»« Mais parce que, ainsi que je viens de vous le dire, mon honneur est en jeu. » Prenant un air sévère, Will s'écriait « Auriez-vous commis une délicatesse ?»« Moi ?» protestait le faux notaire avec tout le talent d'un merveilleux comédien. « Moi, une délicatesse, oh monsieur, vous ne vous connaissez pas. Depuis plus de 3 siècles, les Jossets ont été notaires de père en fils à Saint-Jean-la-Poterie. Et tous les habitants de cette petite cité, modeste et laborieuse, ainsi qu'à 10 lieues à la ronde, vous diront « Jamais un Josset n'a commis la moindre erreur d'y causer le plus léger tort à son prochain. » Entièrement dupe, Will Streamer reprenait. « Excusez-moi, monsieur, mais avant de m'engager dans une affaire, surtout quand elle se présente d'une façon aussi inattendue, j'ai toujours pour principe de me documenter le plus possible sur les personnes auxquelles j'ai affaire. Mais avec moi, vous pouvez être tranquille, » répliquait le roi des détectives. Je suis persuadé, j'espère que vous ne m'en voulez pas de mon indiscrétion personnelle. Je vous approuve entièrement, déclarait gravement Chantecoq. Ces scrupules vous honorent et me montrent combien j'ai eu raison d'avoir confiance en vous. Moi-même, si j'étais policier privé comme vous, j'aurais pas une autre manière. Excusez, monsieur Wilstener, je ne m'aperçois pas que je vous ai laissé debout. Et tout en lui présentant un fauteuil placé près d'une table, il fit « Veuillez vous asseoir. » L'Américain s'installa aussitôt dans le fauteuil où il se carra avec le sans-gêne qui caractérise certains de ses compatriotes, qui, lorsqu'ils se trouvent en France, croient de bon ton de se conduire en homme mal élevé. Chantecoq prit place sur une chaise en face de lui et il attaqua. Et depuis longtemps, j'étais pas heureux en ménage. J'avais épousé par amour une jeune orpheline de Nantes, sans fortune, mais dont j'étais éperdument épris. Je m'aperçus bientôt, mais trop tard, hélas, que mon amour n'avait pas trouvé le moindre écho dans le cœur de celle qui était devenue ma femme. Mais, comme je tenais à elle par-dessus tout, je résolus de tout mettre en œuvre pour la garder près de moi. Pensant bien qu'elle ne s'amusait pas beaucoup à Saint-Jean-la-Poterie et qu'elle avait besoin de distraction, je l'emmenais de temps en temps, le plus souvent possible, à Nantes, où nous allions ensemble au théâtre, au cinéma et même au music-hall. Moi, je vous avoue, ce genre de plaisir ne m'offre qu'un médiocre attrait. Mais cela ne suffit pas à Colette. Ah, j'avais oublié de vous dire que ma femme s'appelait Colette. « Cela ne fait rien, » ponctua l'Américain, en tirant de sa poche une pipe qu'il se mit à bourrer, sans même en demander la permission à celui dont il était l'hôte. Chantecoq, ou plutôt Maître Josset, poursuivait. « Et bientôt, elle se mit à me parler de Paris. Paris était l'objet de ses rêves. Pour elle, il n'y avait que là que l'on pouvait vivre heureux. Et un jour, elle me déclara, à ma profonde stupéfaction, que si je ne vendais pas mon étude et si je n'allais pas me fixer avec elle dans la capitale, elle s'en irait. Parfaitement, monsieur, elle s'en irait toute seule.
Je me laisserai là, dans mon coin, triste et abandonné. C'est en vain que je cherchais à faire revenir Colette sur sa décision. Il n'y avait rien à faire, si vous avez pu le constater. Oui, je suis beaucoup plus âgé qu'elle, et la pensée de perdre cet adorable enfant, qui est devenu ensoleiller mon âge mûr, de sa rayonnante jeunesse, me donna des idées tellement noires, qu'elle m'a même à me dire que si elle me quittait, je me tuerais. Mieux valait donc partir avec elle. Alors, quelque temps après, je vendis ma charge à un très bon prix. En y ajoutant quelques centaines de mille francs de fortune personnelle que je possède, j'avais de quoi vivre à Paris, sinon largement, mais tout au moins sans manquer de rien. D'ailleurs, mon intention était de fonder ou d'acheter un cabinet de consultation juridique qui m'eût augmenté mes revenus. Car nous autres notaires de province, on peut parfois se moquer de nous, mais nous savons nous débrouiller, même mieux que nos confrères des villes. L'art de la chicane n'a pas de secret pour nous. Enfin, passons, j'arrive au résultat. En attendant que je fisse transférer dans une banque de Paris mon capital que j'avais déposé à l'étude d'un de mes confrères roudonnais, j'avais emporté sur moi une somme de 100 000 francs que j'avais cousue prudemment dans la doublure de mon veston. Alors nous prîmes le train ce matin. Colette semblait d'une humeur charmante. Nous déjeunâmes au wagon-restaurant. Mal d'ailleurs. Mais Colette, trouvant tout exquis, je ne voulus pas lui enlever ses illusions. Et je m'extasiais moi-même sur les sambouilleux et sur les tranches de veau minces comme un courant d'air et auxquelles on avait ajouté quelques feuilles de salade. Et lorsque nous arrivâmes ici, Colette était littéralement radieuse. Nous dînâmes à l'hôtel et de là, tout de suite, elle voulut que nous allions assister à la revue des Folies Bergères. Oh, je ne voulus pas la contrarier pour si peu. Alors nous prîmes un taxi qui nous emmena dans le célèbre établissement de la rue Richet et nous passâmes une soirée excellente. Colette était tellement joyeuse et moi tellement satisfait de l'avoir ainsi manifesté son allégresse que je lui proposais d'aller souper dans une boîte de nuit à Montmartre. Voyez, monsieur le détective, que j'étais prêt à tous les sacrifices. Mais à ma grande surprise, Colette refusa et m'appelant pour la première fois son chéri, elle me dit qu'elle préférait rentrer directement à l'hôtel. Dans le taxi qui nous emmenait, elle s'appuya contre moi, mit sa tête contre mon épaule, provoquant un baiser qu'elle ne me rendit pas et qu'elle accepta, du moins sans contrainte. Je nageais dans le bonheur. Je me figurais que j'allais peut-être connaître les félicités que je me croyais à jamais interdites et je remerciais Paris, ce grand Paris, avec ses étincellements de lumière, ce Paris de l'instinct que j'avais tant de fois maudit, haï, et qu'aujourd'hui j'adorais. Je le bénissais parce que j'avais la prudente jobardise de me figurer qu'il allait m'ouvrir les portes du ciel. Chantecoq avait lancé cette tirade avec un tel accent de sincérité, et il observait une attitude si naturelle que de plus en plus convaincu qu'il avait affaire à une poire qui ne demandait qu'à se laisser cueillir, Willstreamer, tout en aspirant de larges bouffées de tabac, estimait déjà à une 50 000 francs le profit qu'il allait tirer de cette affaire. Chantecoq, qui avait repris haleine, poursuivait. « Maintenant, j'en arrive au drame, à la catastrophe. Mais j'aurais voulu être bref, mais j'estime qu'il était de bon devoir de vous communiquer tous ces détails. » L'Américain eut un signe d'approbation. Puis il fit. L'affaire en valant la peine, mais je suis tout décidé à tout entendre, aussi bien qu'à tout faire. Chantecoq reprenait. En rentrant à l'hôtel, je commençais par enlever mon pardessus, mon veston, que je laissais étendu sur le dossier d'une chaise,
et je passai pendant quelques instants dans le cabinet de toilette. Et lorsque j'en revins, quelques minutes après, Colette avait disparu. Ah, ça, me disait-elle, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu devenir? Par où était-elle passée? J'ai cru qu'elle se cachait pour me faire une niche. Lorsque tout à coup j'aperçus mon veston par terre, j'eus une instinctive inquiétude. Je le ramassai et je m'aperçus que la doublure avait été largement entaillée et que les 100 000 de 1 000 francs que j'avais enfermés dans cette cachette étaient volatilisés. J'en demeurai littéralement assommé pendant quelques instants. Puis reprenant mes esprits, je jetai un coup d'œil sur mon veston qui pendait lamentablement entre mes mains. J'aperçus, épinglé à sa doublure, une enveloppe dont je m'emparais et que j'ouvris aussitôt. Et cette enveloppe refermait une lettre ainsi conçue. « Monsieur, j'en ai assez de vivre avec vous. J'aime un grand artiste et je vais refaire ma vie avec lui. Je vous apporte une somme qui certes ne présente pas la valeur de la location de ma personne pendant les 4 années que j'ai dû obéir et subir votre tyrannie conjugale. Je me considère donc quitte envers vous et je vous tiens quitte envers moi. Adieu, Colette. » Et Jean de Coq reprenait toujours plus que jamais dans la peau de son personnage. Mais si je vous demande de vous lancer à la poursuite de la fugitive, ce n'est pas que je tienne à elle, mais je voudrais bien retrouver mon argent. Je le désire d'autant plus que le grand artiste avec lequel elle prétend refaire sa vie n'est autre qu'un immonde gigolo de dancing qu'elle a connu à Nantes et dont elle est évidemment plus que jamais éprise. Maintenant, je n'ai plus rien à vous dire. À vous de me répondre si vous acceptez oui ou non la mission que je vous confie.
« J'accepte, » déclarait l'Américain.
« Oh, je vous remercie, » ripostait le notaire. « Maintenant, veuillez me dire quelles sont vos conditions. »
Brutalement, à la manière américaine, Willstringer décrétait.
« Signez pour moi un chèque de 700 $ à titre de provision, et j'entrerai tout de suite en campagne. »«
700 $ répliquait le faux tabellion. « En France, jusqu'à ce jour, nous avons conservé l'habitude de compter en francs. »
Eh bien, cela fait environ 10 000 francs, concédait d'un air dédaigneux le détective Yankee.
Jean de Coq riposta.
Bon, je vais chercher mon carnet de chèques. Excusez-moi, je suis tellement chaviré par la catastrophe qui vient de s'abattre sur moi que je ne sais plus vraiment où donner de la tête.
L'Américain se figea dans une immobilité et un silence qui prouvait clairement qu'il était bien décidé à attendre. Affectant une attitude de plus en plus agitée, le roi des détectives se mit à fouiller dans les poches de son veston tout en disant
« Oh, pourvu qu'il ne l'ait pas emporté lui aussi.
Au fait, non, car cela lui servirait à rien. Elle est incapable d'imiter ma signature.
À moins qu'elle n'ait voulu me jouer un vilain tour. Avec des créatures de cette espèce, sait-on jamais jusqu'où les choses peuvent aller. » Soudain, le grand limier poussa un cri de triomphe. « Ah, le voici !» Puis revenant brusquement vers Willstringer, qui, étendu dans son fauteuil, l'attendait en fumant sa pipe, les pieds étalés sur une petite table qui se trouvait en face de lui, il fit d'un ton inquiet, presque pleurard.
« Dites-moi, monsieur le détective, si comme j'en suis persuadé vous retrouvez ma femme, ne lui faites pas de mal. »
« Moi, lui faire du mal ?» s'étonnait l'Américain. « Mais n'a nulle mal intention. »
« Cependant, » objectait timidement Jean de Coq.
« Cependant quoi ?» appuyait son interlocuteur.
« Ben, on m'avait dit, mais je n'ose pas vous le répéter. Vous avez bien tort de vous gêner avec moi. N'en quoi rien, pas un mot. Eh bien, précisez vite, tout de suite. » « On m'avait dit... »
Le fin limier s'arrêta encore. L'Américain nasilla.
« Oh, que j'étais brutal dans l'exercice de mes fonctions. »« Non, pas du tout. »«
Alors, »
commençait à s'énerver le Yankee.
Oh, c'est un méchant bruit que l'on fait courir. Enfin, on m'avait dit que c'était vous qui signaliez aux tueurs de femmes les femmes adultères qu'ensuite ils supprimaient.
À cette phrase que le roi des détectives avait prononcée en baissant la tête et en fermant à demi les yeux, comme s'il redoutait de rencontrer ceux de son interlocuteur, l'Américain se dressa d'un bond. Chantecoq avait visé juste. Bill Streamer s'écriait en effet.
« Ah, j'y vois clair. Vous êtes de l'agent de la sûreté. Vous avez voulu m'attirer dans un guet-apens. Eh bien, tant pis pour vous. »
Chantecoq avait manœuvré de telle sorte qu'il se trouvait placé entre le complice de Courtil et la porte qui donnait sur le palier. Et tout en prenant une attitude ahurie et effarée, il balbutia.
Tant pis pour moi, mais je ne comprends pas. Eh bien, vous allez comprendre,
scandait le gredin, en brandissant un Browning qu'il avait pris dans la poche arrière de son pantalon. Et il martela.
Oh, les mains! Oh, les mains, pourquoi?
Interrogeait le faux tabellion d'une voix tremblante. L'Américain ripostait.
Parce que si vous ne m'obéissez pas, je vous brûle la cervelle.
Pas possible.
Vous avez une minute.
Ne vous ferez pas cela.
Ah, vous croyez?
L'Américain dirigea son arme vers le front de Sandcock. Il n'était éloigné de lui que d'un mètre à peine. Le roi des détectives ne broncha pas d'une ligne. Et prenant tout à coup un ton ironique et une attitude provocante, il dit
« Vous pouvez tirer, monsieur Will Streamer. Je suis tout à fait rassuré. Il n'y a pas de cartouche dans cette arme. »«
Pas de cartouche ?»«
Mais non !» répliqua tranquillement le plus grand limier du monde.
Et il continua.
J'en suis d'autant plus sûr que ce Browning est à moi et que le vôtre est dans ma poche. Avouez qu'il est assez rare de rencontrer chez un auteur de province un pareil talent de prestidigitateur.
Croyant que le faux tabellion bluffait, le détective américain appuya sur la détente. Mais le coup ne partit pas. Il reprit son arme. Son interlocuteur avait raison. Ce n'était pas la sienne. Il approcha au loin avec un jet de colère et furieux. Il s'écria.
Pour réaliser un pareil tour, il faut être un policier ou un voleur.
Et il ajouta avec un air de défi.
Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
Oh, ni vous non plus. Et emporté par sa fureur, Will Streamer voulut se précipiter sur Sandcock. Comme toujours, celui-ci était sur ses gardes. D'un magistral direct de gauche, il envoya son adversaire rouler à terre. Puis s'armant du Browning qui lui avait si adroitement subtilisé, il lui dit
« À mon tour, je vais vous dire haut les mains, ou bien je tire. »
Et cette arme-là, mieux que quiconque, vous devez savoir qu'elle est chargée puisqu'elle vous appartient.
« All right !»
fit l'Américain, qui, tout étendu, se releva péniblement sur les genoux et avec non moins de difficulté leva les bras en l'air.
« Vous !» murmura-t-il. « Vous êtes un as !»«
Bon, on fait ce qu'on peut !» d'une voix qui se raffermissait peu à peu, mais tout en conservant l'attitude que le plus grand policier de notre temps lui avait ordonné de prendre, il ajouta
« Je ne connais qu'un seul détective qui soit capable de réaliser un pareil exploit.
Et comment s'appelle-t-il ?» lançait notre ami.
« Chantecoq.
Et s'il vous disait que c'est moi ?»«
Je vous répondrais que c'est fort possible. » »«
Vous auriez pu dire aussi bien que c'est certain. » Et se débarrassant en un tournement de sa barbe et de sa perruque, il ajouta avec la désinvolture spirituelle que lui permettait son extraordinaire maîtrise,
Souffrez que je poursuive cet entretien sous mes traits véritables. « Vous m'avez roulé !» grommelait l'Américain. « J'ai fait ce que j'ai pu !» souriait le Français. « Entre confrères, on n'agit pas ainsi. »« Oh, permettez-moi, monsieur Willstreamer. Nous avons tous les deux une conception si différente de notre métier que je vous refuse nettement le droit d'invoquer entre nous toute solidarité professionnelle. Maintenant, après ce long préliminaire, j'entends aller vite. J'ai d'ailleurs qu'une question à vous poser. Combien de professeurs court-il, vous donnait-il, par tête de gibier que vous lui rabattiez ?
Par tête de gibier ? Répliquait l'Américain en feignant de ne pas avoir saisi le sens des paroles prononcées par Shandcock. Celui-ci précisait « Bon, par tête de femme !»
Mais pour vous répondre, il faudrait que je connaisse ce professeur.
Ah, vous ne le connaissez pas.
Mais non.
Je vous préviens que vous vous engagez là sur un terrain plutôt dangereux.
Mais je vous assure.
Mais vous connaissez fort bien le tueur de femmes que vous êtes venu chercher ce soir dans votre auto pour le conduire au ministère du Commerce, où il y avait une grande réception où il a fait deux nouvelles victimes. Ensuite, vous l'avez ramené chez lui. Inutile de nier. Mon secrétaire a pu repérer le numéro de votre voiture. C'est ce qui m'a permis de vous repérer vous-même et de vous prendre et de vous tendre le petit traquenard que vous savez. Vous connaissez, vous ne l'aviez pas volé. L'Américain gardait le silence. Il était pris. Il ne s'agissait plus pour lui que de s'en tirer au meilleur compte. Shandcock était un trop profond psychologue pour ne pas deviner ce qui se passait en lui. Et il se dit « Oh, je le tiens !» Et avant peu, il va se montrer aussi loquace que jusqu'alors il s'est tenu sur la réserve. Et tout haut, il reprit « Je renouvelle donc ma question. Combien le tueur de femmes vous remettait-il par victime que vous lui ameniez ?»«
Mais monsieur Shandcock, je vous assure que jamais !»
Ne le cherchez pas à nier. Je ne vous croirai pas. Car je sais comment les choses se sont passées, je m'en vais vous le dire. Un beau jour, vous avez reçu la visite du professeur Courtil, qui vous a tenu ce langage. Monsieur le détective, de par vos fonctions, il doit vous arriver fréquemment, sur la demande des maris qui se croient trompés, de filer des épouses infidèles en vue de les faire surprendre en flagrant délit. Je vous demande donc de bien vouloir me fournir le nom, l'adresse et le signalement de toutes les coupables que vous connaîtrez. Moyennant quoi, je vous donnerai une rétribution de temps. Et sans même demander d'explication à cette offre, qui aurait dû cependant vous inspirer, sinon quelques soupçons, mais du moins quelques inquiétudes, vous avez accepté tout de suite, car vous aviez à ce moment, et vous avez encore de pressants besoins d'argent. Les boîtes de nuit de Montmartre et de Montparnasse coûtent fort cher. Enfin, passons. Un jour, vous avez remarqué, c'était fatal, que toutes les jeunes femmes que vous aviez signalées au professeur Courtil disparaissaient les unes après les autres d'une manière aussi semblable que foudroyante. Un peu ému tout de même, malgré votre flegme, qui est surtout basée sur un manque total de scrupules, vous êtes allé trouver le tueur de femmes. Vous l'avez questionné. Et il vous a répondu très nettement. Car il l'attendait, et il s'y était préparé depuis quelque temps. Et voici le sort de sa déclaration. C'est moi, en effet, qui supprime toutes les femmes que vous m'envoyez. Et si vous me dénoncez, j'affirme que vous étiez d'accord avec moi, et je vous entraîne dans ma destinée. Car vous pourrez être sûr qu'on me croira. C'est bien cela qu'il vous a dit, n'est-ce pas ? Vous ne me répondez pas, alors nous sommes d'accord. Et pris dans l'engrenage, par peur encore plus que par cupidité, vous avez continué à fournir le bourreau de victimes. Vous êtes un misérable, Willstreamer.
Mais ce que je veux faire, ce n'est pas livrer à la justice le complice du professeur Courtil, mais c'est de m'emparer de celui-ci et de le mettre hors d'état de nuire. Certes, vous avez encouru une terrible responsabilité. Si vous étiez jugé en même temps que le tueur de femmes, je me demande si vous arriveriez à sauver votre tête. En tout cas, vous seriez certainement condamné aux travaux forcés à perpétuité. À cette menace, l'Américain ne put réprimer un tressaillement. Chantecoq poursuivait. Je n'ai qu'un mot à dire, ou plutôt un appel à lancer pour vous faire coffrer immédiatement. Je ne le ferai pas, mais à une condition. Si vous alliez immédiatement me dire où se trouve en ce moment le professeur Courtil.
Je n'en sais rien.
Blagueur.
Je vous assure que je l'ignore.
Nous allons bien voir. Tout en maintenant l'Américain sous la menace de son Browning, Chantecoq se dirigea vers le téléphone.
« Qu'allez-vous faire ?»
interrogeait fiévreusement Will Streamer, toujours agenouillé et les bras en l'air. « Alerter la police. »«
Grâce. »«
Ha ha, vous vous dégonflez. »«
Non, mais je... »
Implacablement, le roi des détectives avançait la main vers l'appareil. Perdant complètement la tête, fou comme une bête traquée et obéissant à un réflexe d'instinctive défense, le détective américain se dressa sur ses jambes et s'élança vers Chantecoq. Celui-ci, au lieu de l'abattre d'un coup de Browning, se contenta de lui asséner un terrible uppercut qui le mit knock-out. « Et maintenant, dit-il, nous allons nous abuser un peu. » Il s'enfuit vers son pardessus qu'il avait jeté sur le lit et prit dans l'une des poches l'une des deux boîtes métalliques que nous lui avions vues emporter. Il en ouvrit une et s'empara d'une cordelette de soie avec laquelle il commença à saucissonner le détective américain qui ne donnait plus signe de vie. Puis, par mesure de précaution, il le bâillonna avec son mouchoir et se dirigea de nouveau vers l'appareil téléphonique. Il allait le faire fonctionner lorsque la sonnerie strida. Il saisit l'appareil et écouta. Une voix s'élevait à l'autre bout du fil. Chantecoq, qui avait toutes les mémoires, y compris celle de l'oreille, reconnut aussitôt la voix du professeur.
« Allô, figure-t-il, c'est vous, Screamer ?»
Imitant aussitôt à s'y méprendre l'accent et les intonations de Will, le grand limier français répliquait
« C'est moi !»«
Oh, je commençais à m'inquiéter de votre absence. J'avais peur que vous ne fussiez tombé dans quelque piège. »«
Non, ça va très bien, au contraire. Je viens de vous trouver une nouvelle cliente. Venez me rejoindre tout de suite à l'hôtel du Quai d'Orsay. » Demandez à parler immédiatement à Maître Josset, notaire. Je vais donner au bureau toutes les instructions nécessaires pour que vous soyez immédiatement reçu. Vous n'aurez qu'à vous nommer, on vous conduira immédiatement jusqu'à moi. Bon, c'est entendu, mais vous ne criez pas. Je suis tout à fait tranquille. Bon, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Chantecoq raccrocha l'appareil. Il avait le sourire des grands jours, ou plutôt des belles nuits de victoire. La chasse à l'homme qu'il avait entreprise n'avait pas été de longue durée. Maintenant, ce n'était plus lui qui poursuivait le gibier. C'était le gibier qui venait de lui-même se prendre au piège. Il fut sur le point de s'élancer sur le téléphone, de demander le numéro de M. Lérémy et de le réveiller par un cocorico triomphant. Mais il se dit « Laissons-le dormir encore un peu ». Et ne l'appelons que lorsque j'aurai tenu tout à fait l'engagement que j'ai pris envers lui. Eh bien, je ne serai pas fâché, non par amour propre, mais par curiosité professionnelle, d'avoir un dernier entretien en tête à tête avec le tueur de femmes. J'ai eu dit que cette conversation suprême me réserve quelques surprises. Et tout en allant vers l'Américain qui commençait à revenir à lui, mais était entièrement immobilisé par le bâillon et les liens dont il avait gratifié, le roi des détectives l'empoigna de ses bras vigoureux
et le traîna jusqu'à la salle de bain, l'étendit au fond de la baignoire, le cacha sous un peignoir et laissa la porte ouverte afin de surveiller son prisonnier. Alors il revint dans la chambre et murmura « Bon, en attendant le professeur, je crois que je vais pouvoir fumer une bonne pipe. »